Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à tous, bienvenue, voici votre mag au carré avec aujourd'hui le retour des commerces dans la galaxie. Il fallait le souligner, alors c'est vrai que ce marché de l'immobilier commercial est en pleine mutation. Que faut-il en penser? Eh bien les optimistes verront dans cette mutation une opportunité, un challenge pour l'avenir et décideront qu'il faut investir. D'autres, dirons-nous plus frileux, s'inquiètent de la situation et se posent pas mal de questions auxquelles nous allons essayer de répondre, de tenter de répondre ce matin avec Audrey Jourdain. Bonjour Audrey.
Bonjour Billy.
Merci d'être là. Audrey, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré et que vous êtes avec nous une fois par mois sur l'antenne de Radio Immo. Un invité ce matin que nous allons présenter, Loïc Jardin. Bonjour.
Bonjour Billy.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'asset management de la française RM et nous allons ensemble discuter de ce problème. D'un mot, vous Loïc, quand on dit le commerce retour accéléré dans la galaxie, c'est positif ou négatif? D'un mot.
Positif.
Positif, évidemment. On se retrouve dans un instant, parce qu'avant notre débat, tout de suite, il y a l'édito d'Audrey.
Audrey, au carré.
Le commerce, retour accéléré dans la galaxie, en mutation. Tel est le terme qui pourrait qualifier l'immobilier commercial depuis quelques temps. Les enseignes bailleurs et villes cherchent à le réinventer en innovant, mais une telle mutation prend du temps. Les investisseurs pourraient être dans l'attentisme, mais non, le commerce de demain semble les inspirer. Oui, 2019 sera une bonne année pour le marché de l'investissement. Malgré un premier semestre timide, l'année devrait se conclure sur un volume de 5 milliards d'euros. C'est 500 millions de plus qu'en 2018. Alors oui, nous sommes encore loin des 7 milliards de 2014, mais deux choses sont à retenir. Le volume investi en immobilier commercial progresse chaque année depuis 3 ans. Et deuxième élément, on est au-dessus de la moyenne décennale qui est de 4 milliards d'euros. La planète retrouve donc petit à petit sa place sur le marché de l'investissement. Saluons les investisseurs français. Ce sont eux qui acquièrent le plus de murs commerciaux situés en France. Loin derrière, on retrouve les Américains, puis les Italiens et les Britanniques. Applaudissements également pour les fonds d'investissement qui animent le marché, loin devant les SCPI. À l'inverse, les fonds souverains sont les grands absents. Les Français et les fonds d'investissement sont donc aux commandes. Zoomons désormais sur l'univers parallèle du luxe. Le luxe a bonne mine. Les indicateurs sont au vert. Les ventes et le tourisme international progressent en Europe. L'influence des consommateurs chinois ne cesse de croître. Mais mauvaise nouvelle pour l'immobilier commercial, la vente en ligne monte en puissance. Alors aujourd'hui, les enseignes de luxe sont 3 fois plus présentes au sein de magasins monomarques qu'en ligne. Le magasin monomarque est le premier canal de distribution. En 2025, la vente en ligne égalerait les magasins monomarques. Les canaux de distribution qui perdraient de l'ampleur face au e-commerce seraient les magasins monomarques, les boutiques spécialisées et les grands magasins. En revanche, les aéroports et les centres outlets devraient accueillir la même part d'enseignes de luxe en 2025. Mais relativisons, la distribution en propre n'est pas prête d'être négligée. Les points de vente physiques permettent un meilleur contrôle de l'image de la marque et un meilleur contrôle de l'expérience achat. Terminons avec les boutiques de luxe parisiennes. Paris ne serait plus Paris sans ses boutiques de luxe. La capitale française a encore été dynamisée cette année par l'ouverture de plus de 40 points de vente, chiffre qui correspond à la moyenne annuelle depuis 4 ans. Félicitons l'horlogerie Joaillerie. Elle représente l'activité qui a le plus ouvert de boutiques à Paris cette année. Elle a donc dépassé la mode qui menait le jeu depuis plusieurs années. Donc non, les boutiques de luxe n'ont pas terminé d'embellir la capitale française.
En tous les cas, les boutiques de luxe, la petite entreprise qui ne connaît ni la crise, ni les grèves, qui ne reboute aucun client, même pas la pluie. Merci beaucoup Audrey pour aujourd'hui cet édito. Et dans un instant, on est parti sur notre interview. Nous recevons aujourd'hui Loïc Jardin, directeur de l'asset management de la française REM. Et le sujet, le commerce, retour accéléré dans la galaxie.
Les invités du carré.
Alors Loïc Jardin, vous êtes avec nous. Ce commerce, on l'avait banni un petit peu il y a quoi, une trentaine d'années. Pourquoi on avait décidé, à votre avis, puisque vous êtes peut-être trop jeune pour en être le décideur, pourquoi on avait banni le commerce des centres-villes?
Je pense que aussi, ça répondait à un besoin aussi de simplicité pour les enseignes, notamment de s'implanter dans les parcs d'activités commerciaux, dans les retail parks. Voilà, on pouvait transformer rapidement d'importantes surfaces et aussi coller au plus proche du besoin des enseignes.
Est-ce que c'était au départ une question de prix aussi ? On construisait en dehors, c'était moins cher.
Oui. Au tout départ, effectivement, ça a été un argument important, en tout cas pour de compétitivité des retail parks face au centre-ville. Ouais.
Alors 30-35 ans après, on s'aperçoit que c'est un peu une erreur. Il faut redynamiser non seulement cet immobilier commercial, mais également dans les centres-villes. Ce marché, il est en pleine mutation. Est-ce qu'il fait peur aux investisseurs et vous particulièrement? Aux asset managers. Qu'est-ce que vous craignez ?
Alors d'abord, est-ce qu'il nous fait peur ?
Oui, est-ce qu'il vous fait peur ?
Est-ce qu'il nous fait peur ? Non. Pourquoi ? Parce que on pense qu'il y a quand même encore, il y a des bons fondamentaux. Le pouvoir d'achat, certes, est faible, mais il continue quand même de croître. Le marché du commerce a été relativement réactif, donc il y a eu aussi une baisse des valeurs. Il faut pas s'en cacher. Donc il y a quand même tout un certain nombre d'indicateurs qui nous laissent à penser que ce marché est quand même relativement sain, et donc on peut y investir. Relativement sereinement. Il y a aussi une prime de risque. Aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est rémunérée, cette prime de risque, face à d'autres typologies d'actifs. Donc, non, il ne fait pas peur aux investisseurs. Maintenant, oui, il faut être beaucoup plus sélectif et faire attention aussi à d'autres indicateurs qu'on regardait peut-être pas forcément bien avant. Et il faut avoir une vision beaucoup plus éclairée qu'avant.
Est-ce que vous comprenez ces investisseurs un petit peu plus frileux, comme je l'ai dit en introduction, qui attendent de voir ? Ils sont pas inquiets, mais ils attendent de voir. Ça laisse une possibilité aux autres de, comme Monsieur les Anglais, tirer les premiers ?
Quelque part, je les comprends, parce que nous, à la Française REM, on a investi quand même beaucoup moins en 2019, donc on a eu aussi cette attitude-là. Maintenant, on s'aperçoit que même si, comme l'a dit et l'a souligné Audrey, les investisseurs SCPI ont battu un peu en retraite, en tout cas, d'autres investisseurs, eux, ont clairement beaucoup plus investi et justement, ça leur a fait la part belle. Vous avez signalé les fonds investissement, il y a aussi des très gros privés, voilà, des family office qui ont été aussi très très actifs sur le marché avec des gros volumes. Donc effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité ? Bah peut-être.
Est-ce que c'est le marché d'aujourd'hui, ce marché de l'immobilier commercial ? Est-ce que c'est un enjeu important aujourd'hui ? Parce qu'on sait que dans la construction, tout marche pas mal, mais celui-ci, ce secteur particulier dont nous parlons ce matin, est-ce que c'est un enjeu capital ?
C'est un enjeu capital parce que derrière, il y a quand même l'économie réelle. Donc, c'est quand même un peu la vitrine de la santé de notre économie. Derrière, nous, les enseignes, derrière, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'emplois. Et c'est aussi le reflet du pouvoir d'achat des Français.
Oui, donc, et pour nous, les Français, c'est un signe quand ça se construit que tout va bien.
Exactement.
Alors on peut se tromper, hein, mais ça remonte aussi le moral des Français. Quelle typologie, Loïc Jardin, quelle typologie d'actifs commerciaux est-elle la plus rassurante aujourd'hui ? Alors rassurante, on a mis des guillemets.
Oui. Et puis donc par définition, c'est très très subjectif.
Oui, mais on n'est pas à la bourse quand même. Donc on va pouvoir un peu donner quelques indications.
Alors, nous, effectivement, en tout cas, à la Française REM, nous, on se concentrera sur deux typologies d'actifs. Un, on va continuer à investir dans les centres-villes des grandes métropoles. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a aussi le pouvoir d'achat des Français. On peut pas lutter contre, effectivement, cette métropolisation qui est... L'urbain, c'est quand même celui qui a le pouvoir d'achat. Faire attention aux flux. Et aussi dans le même temps, quand même regarder aussi la périphérie, pourvu qu'effectivement ces retail parks soient bien desservis en transport, en moyens de communication, et dans un cercle assez urbain, faire attention aussi au fait que la zone de chalandise primaire soit quand même existante. Parce qu'effectivement, on a parfois transformé des champs en retail parks, c'est pas suffisant aujourd'hui.
Non. Non. Investir dans les grandes métropoles pour ce marché de l'immobilier commercial, est-ce qu'aujourd'hui les prix sont raisonnables ou ils s'envolent?
Alors, effectivement, la compétition entre les investisseurs sur les grandes artères est forte. Mm-hmm. Donc, on peut s'attendre effectivement à une montée des taux, une baisse des taux, pardon. Et aussi, c'est dynamisé justement par les taux à l'investissement, les taux bancaires qui sont extrêmement bas. Donc on peut craindre effectivement cette envolée des prix. Maintenant, voilà, quand on regarde aussi les autres typologies d'actifs, on se rend compte que les taux sont pas si bas que ça. Mm-hmm. Et comparativement, on peut estimer que la prime de risque est rémunérée.
D'accord. Alors on va revenir à cette typologie d'actifs. Quelles sont les forces et les faiblesses actuelles de cette classe d'actifs?
Alors bon, on va d'abord commencer par les faiblesses.
On terminera en force, c'est bien joué.
Parce qu'il fâche. On s'aperçoit que quand même, il y a eu une mutation, vous l'avez dit. Certaines enseignes n'ont pas encore opéré cette mutation. Ça c'est quand même encore une inquiétude.
Elles sont quand même très à la traîne alors.
J'ai pas dit toutes.
Hein. Oui, mais moi je vous pose la question. Pour celles qui n'ont pas effectué cette mutation, est-ce qu'elles sont à la traîne?
Oui, aujourd'hui. Oui, forcément. Et c'est celles qui sont le moins performantes, les moins performantes. Et celles-ci, effectivement, il faut toujours être très, très vigilant et vraiment avoir. C'est un point d'attention. Donc ça, c'est quand même une faiblesse. On peut quand même aussi regretter quand même que le pouvoir d'achat n'augmente pas aussi rapidement que ce que l'on aurait espéré. C'est ça aussi qui dynamise la croissance et surtout le chiffre d'affaires de nos enseignes. Donc ça, c'est quand même encore un petit peu les points d'attention, pour pas dire les faiblesses. Dans les forces, en tant qu'investisseur, je l'ai dit tout à l'heure, je reste convaincu que ça reste une classe d'actifs intéressante parce que les taux sur le marché sont plus élevés comparativement que les bureaux et même que la logistique. On a vu quand même des grosses transactions en logistique avec des taux incroyablement bas. Donc ça, effectivement, ça c'est quand même une force. Et puis il y a quand même un certain dynamisme. On l'a dit tout à l'heure, 5 milliards d'euros qui auront été transactés cette année. C'est quand même une belle année. Il y a un beau dynamisme. Effectivement, les acteurs SCPI ont été un peu moins présents, mais on a vu que d'autres typologies d'investisseurs ont comblé un petit peu ce retrait. Donc le marché fonctionne relativement bien et est resté dynamique.
Mmh. Quand on parle de marché de l'immobilier commercial, on ne peut pas ignorer que depuis un an, au niveau du commerce, c'est difficile parce que c'est la société qui est en crise. Il y a eu les gilets jaunes, on repart sur, ça y est, depuis quelque temps, des grèves. Est-ce que ça peut influencer le marché? On est bien en amont, vous, avec la construction, mais est-ce que ça rentre à un moment ou un autre en compte?
Oui, forcément, parce que...
Ça vous affole pas pour l'instant? Parce que ça fait quand même une année, même si les chiffres ont été bons, ça peut être inquiétant.
Oui, il faut être effectivement extrêmement attentif face à ça. Je l'ai dit tout à l'heure, le marché du commerce, c'est quand même le reflet de l'économie réelle. Demain, si les enseignes ont une très grosse baisse de chiffre d'affaires, ça sera, il y aura forcément des impacts et des conséquences pour nous, investisseurs. Mmh. Ça, c'est certain. Il faut pas s'en cacher. Les conséquences directes d'une enseigne qui fait pas de chiffre d'affaires, c'est qu'elle a du mal quand même à payer ses loyers. Ouais. Donc oui, il faut être...
Donc vous êtes attentif aux mouvements sociétaux et à la politique. Tout ça, bien sûr, prend une importance quand on veut investir.
Oui, on est obligé quand même de regarder...
Et pourtant, 2019 a été une bonne année.
Oui. Ça a été une bonne année. Ça a été une bonne année à l'investissement. Ça a été après les enseignes ont fait, pour celles qui ont fait le virage effectivement du numérique, de toutes ces mutations, on fait plutôt une bonne année. Maintenant, bon, il faut quand même rester assez raisonnable. Toutes les enseignes ne sont pas exactement au même niveau de performance non plus. Donc bon, effectivement, c'était une bonne année, mais bon, il faut encore rester attentif.
Quand vous dites que toutes les enseignes ne sont pas à la même enseigne, tiens, on va faire ce beau jeu de mots. Allez, en pourcentage, ça donne quoi? 60% sont passés le cap, 70, 80, on en est où?
Allez, on va dire deux tiers.
Deux tiers, c'est pas mal quand même.
Oui, c'est pas mal, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même un bon bout de chemin qui a été fait. On s'aperçoit aussi qu'il y a quand même un certain équilibre qui est en train de se créer entre la part de e-commerce et la part de commerce physique. Bon, il y a quand même des signaux positifs qui montrent que le marché retrouve un certain apaisement et un certain équilibre.
Est-ce que vous pensez que le e-commerce un jour va bouffer tout le reste?
Non,
on est bien d'accord.
Clairement pas.
On l'a cru.
Oui,
parce qu'il y a
eu
une envolée, mais non. On aura toujours besoin de ce contact, on aura toujours besoin de tâter une matière avant d'acheter, de regarder un objet. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais c'était bien qu'un professionnel nous soit d'accord avec nous. Les négociations, Loïc Jardin, d'Ebo, sont-elles plus difficiles actuellement au niveau des répartitions des charges, niveau des valeurs locatives, répartition, etc. C'est plus difficile aujourd'hui?
Alors, très honnêtement, il y a eu une correction des valeurs, mais la correction des valeurs, elle a commencé bien plus tôt. C'est pas le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé à créer ce mouvement des négociations, des renégociations. Quelque part, ça fait quand même près de... Ça va faire maintenant presque 8-10 ans qu'on est en crise, soi-disant. Ce mouvement-là, il a été créé quand même depuis un certain nombre d'années. Donc oui, il y a eu une correction des valeurs. Oui, il y a eu des renégociations. Il y a eu aussi quand même quelques évolutions législatives. Pinel est passé par là.
Bien sûr.
Ça a eu le mérite, en tout cas, de créer le débat. On peut pas forcément être d'accord sur tout. Il y a eu une correction des valeurs. Il y a eu un débat, effectivement, sur le niveau des charges, sur qui paie quoi. Et face à ça, nous, on a de toute façon été assez attentifs et on a discuté avec toutes les enseignes pour essayer de retrouver, effectivement, un équilibre. Mais bon. C'est pas depuis 6 mois ou 12 mois qu'il y a eu ce...
Ouais, on a bien compris. Audrey, quand on écoute Loïc Jardin, on se dit qu'il nous a ouvert une voie. Donc on va pouvoir ensemble et vraiment lui poser la question la plus importante. Loïc, avec tout ce que vous nous avez appris ce matin, cette période de mutation est-elle le moment d'investir en immobilier commercial?
Moi, je pense que oui. Je pense que oui, effectivement, c'est quand même une belle opportunité. Je l'ai dit, il y a encore des fondamentaux qui sont bons. Il faudra de toute façon être très sélectif. Il faudra continuer d'être sélectif. Donc, il ne faut pas acheter n'importe quoi sur n'importe quel format non plus.
Alors, justement, pas n'importe quoi sur n'importe quel format. Comment vous pourriez nous aiguiller ce matin? Quel serait, non pas le format idéal, mais presque, celui que vous recommandez?
Alors le format idéal, c'est celui qui correspond à un maximum d'enseignes qui sont prêtes à payer ou en capacité de payer le loyer. Donc il y a quand même une diversité des formats. Aujourd'hui, ça serait vraiment trop compliqué et à la fois trop simpliste de dire le format idéal, sinon tout le monde s'engouffrerait dedans. En tout cas, nous, on sera effectivement assez sélectif en regardant effectivement quel est le pouvoir d'achat de la zone de chalandise primaire, de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est ça qu'il faut regarder. C'est le client final. Est-ce que l'enseigne, quand je vais l'implanter à tel endroit, elle pourra trouver des clients, faire du chiffre d'affaires, faire du profit aussi et nous payer un loyer, un loyer de marché.
On parlait des métropoles tout à l'heure. Est-ce qu'on peut voir aussi un peu de frémissement dans l'investissement immobilier commercial dans des villes plus petites?
Oui, alors la situation des villes plus petites et notamment des villes moyennes est là très très hétérogène.
Oui.
Il y en a effectivement qui sont encore très très dynamiques, qui ont un stock d'habitants dans ces villes qui est relativement important. Donc du coup, ça crée aussi du chiffre d'affaires pour les enseignes. Et d'autres, le chemin sera beaucoup beaucoup plus long parce qu'effectivement l'ensemble des habitants généralement sont déjà partis et le mouvement et le cycle sera très long.
Allez, toute dernière question. La mutabilité des bâtiments serait-il l'enjeu des prochaines années ?
Oui, un grand oui.
Un grand oui.
Un grand oui. Effectivement, c'est même un devoir, parce que on se rend compte que dans un marché où le stock de mètres carrés commerciaux a fortement augmenté, plus fortement d'ailleurs que le pouvoir d'achat, il y a forcément un stock résiduel. Ce stock résiduel, il va falloir le traiter. Et vraiment un grand oui, parce qu'aujourd'hui, des acteurs comme nous, investisseurs, on n'a pas forcément les moyens, les bons outils pour transformer ces commerces. Alors qu'il y a une vraie volonté, et il va falloir quand même qu'on se mette tous autour de la table avec aussi les élus, les hommes politiques, pour trouver d'autres outils, des outils aussi plus réactifs, plus faciles à mettre en œuvre.
La ville de Dedans, on nous la promet proche, agréable à vivre, et avec beaucoup moins de déplacements, parce que c'est ça qui tue et qui fatigue aussi l'être humain, de faire 1 à 2 heures de transport matin et soir. Est-ce que ça veut dire que si on est sur place, les commerces vont être les rois et qu'on aura besoin d'eux ? Bah oui, absolument aussi, c'est bien ça ?
Oui, effectivement.
Faut qu'on est tous à portée de main.
Alors, de toute façon, c'est quand même un mouvement. Maintenant, on veut tous tout à portée de main.
On est pressés.
On est tous très, très pressés. Donc, effectivement, ça peut être un enjeu pour le commerce de centre-ville. Bon, après, il faut pas non plus faire de parisianisme primaire.
Non, mais ce serait bien de redynamiser.
Oui, oui, oui.
Ça, on est tout à fait d'accord.
Et je pense aussi quand même que les consommateurs aiment quand même aussi un petit peu voyager, aiment se transporter dans des conditions qu'il faudra effectivement être, que ce soit un peu plus confortable
et agréable
qu'en ce moment. Bon, voilà, il y aura de toute façon, effectivement, à la fois du centre-ville, mais aussi à la fois de la périphérie.
Merci beaucoup, Loïc Jardin, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'asset management de la française REM. Merci beaucoup.
Du MAG à la lettre mètre carré.
C'est déjà la fin de cette émission.
Oui, tout à fait.
C'était passionnant, hein ?
Oui, absolument.
Passionnant. Merci d'avoir invité Loïc Jardin. Audrey, on se retrouve le mois prochain.
Merci Billy, merci Loïc.
Merci Audrey.
On a un petit sujet à se mettre sous la dent ?
Oui, tout à fait, les bureaux. Les bureaux, la muse des investisseurs.
Exactement, les bureaux, on a toujours dit qu'il y en avait trop et qu'ils n'étaient pas loués. Allez, rendez-vous le mois prochain. L'année prochaine.
Oui, absolument.
Absolument. Absolument. Merci Audrey.
Merci Billy. Au revoir.
Le MAG au carré en partenariat avec la lettre mètre carré.